Vous écoutez On lit pour vous.
La crise du logement frappe plus durement les femmes, selon les études. Un texte de Raquel Fernandez, paru le 23 avril 2026 dans La Conversation. La crise du logement au Canada n'est pas neutre. Elle est profondément marquée par des inégalités de genre. Les débats publics se concentrent sur la pénurie de logements, la hausse des loyers et l'accès à la propriété. Ces enjeux sont importants, mais ils ne rendent pas compte d'une réalité essentielle. Toutes les personnes ne vivent pas la crise du logement de la même façon. Les femmes sont particulièrement touchées en raison de leur précarité économique accrue et de leur surreprésentation parmi les locataires. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, 55 % des ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement et 63 % des ménages vivant dans un logement subventionné sont dirigés par des femmes. Les familles monoparentales, majoritairement dirigées par des femmes, sont parmi les plus exposées. Les femmes âgées, immigrantes, racisées ou issues de la diversité de genre font également face à des obstacles complexes et cumulatifs à l'accès au logement. Ces disparités ne sont pas accidentelles. Elles reflètent des conditions économiques et sociales qui restreignent l'accès à un logement stable et sécuritaire et rendent invisibles les effets différenciés de la crise selon le genre. Depuis les années 1990, le désengagement de l'État et la marchandisation du secteur de l'habitation ont accentué la dépendance au marché au détriment du logement social et abordable. Cette tendance a entraîné une hausse des coûts et une précarisation accrue pour certaines populations. Ainsi, la crise du logement ne se limite pas à refléter les inégalités de genre. Elle peut également les exacerber. Je mène un doctorat en aménagement à l'Université de Montréal sur les habitations collectives pour femmes au Canada. À partir de l'analyse de plusieurs projets, j'examine comment l'organisation des logements, leurs espaces, leurs règles et les relations qu'ils permettent influencent les conditions de vie, d'autonomie et de sécurité. Une crise du logement genrée. La crise du logement n'est pas la cause des inégalités de genre. Elle s'inscrit dans les structures sociales et économiques qui les produisent déjà. L'accès au logement dépend étroitement des revenus, de la stabilité d'emploi et des responsabilités familiales, des dimensions elles-mêmes marquées par des inégalités. En effet, la pauvreté touche davantage les 74 % des familles monoparentales dirigées par une femme. Elle est aussi plus fréquente chez les femmes qui cumulent plusieurs formes de discrimination. Le concept d'intersectionnalité permet de comprendre que certaines personnes vivent plusieurs formes d'inégalité en même temps. Par exemple, une femme peut faire face à des obstacles liés à la fois à son genre, à son origine, à sa situation économique ou à son statut migratoire. Ces réalités ne s'additionnent pas simplement, mais se combinent et se renforcent. Les femmes occupent plus souvent des emplois précaires ou à temps partiel et assument encore une part importante du travail domestique et de soins. Ces réalités ont un impact direct sur leur capacité à accéder à un logement stable. Le logement ne constitue donc pas un simple cadre neutre. C'est une dimension de l'environnement bâti où les ressources et les possibilités d'action se répartissent de manière inégale. Les modèles résidentiels dominants, souvent conçus autour de la famille nucléaire et de la propriété privée, répondent difficilement à des trajectoires de vie plus diversifiées ou à des besoins de soutien accrus. La crise du logement agit comme un miroir qui reflète et amplifie les inégalités existantes. L'accès à un logement stable et réellement abordable dépend non seulement d'un choix individuel, mais aussi d'une organisation sociale et spatiale susceptible de favoriser certaines populations au détriment d'autres. Des politiques qui ont reconfiguré l'accès au logement. Les inégalités actuelles s'inscrivent dans une évolution globale des politiques de logement au Canada. À partir des années 1990, le retrait progressif de l'État fédéral et le transfert de responsabilités vers les provinces ont profondément modifié le rôle des pouvoirs publics. Cette mutation s'accompagne d'une dépendance accrue au marché et d'une baisse significative des investissements dans le logement social. Les politiques ont davantage soutenu le développement de logements dits « abordables » sans toutefois répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables. La financiarisation du logement, la promotion de la propriété privée et la réduction du financement public ont ainsi réduit l'offre de logements véritablement accessibles. Aujourd'hui, l'accès à un logement stable dépend de plus en plus des ressources économiques, ce qui accentue les inégalités existantes qui touchent particulièrement les femmes et les personnes marginalisées en raison du genre, pour lesquelles l'accès au logement demeure plus précaire. Des logements peu adaptés à la diversité des trajectoires. Au-delà des politiques, la conception et l'organisation des logements influencent de manière décisive les conditions de vie. Les modèles résidentiels dominants privilégient des unités privées, une organisation cloisonnée des espaces et une séparation marquée des responsabilités domestiques. Historiquement, ces formes d'habitat ont peu pris en compte la diversité des expériences, notamment celle des femmes. Ces modèles, conçus à partir de normes androcentrées et patriarcales qui isolent les femmes et invisibilisent le travail domestique, répondent difficilement aux trajectoires de vie plus diverses. Ces configurations laissent peu de place à des formes de vie plus collectives ou à des besoins de soutien. Elles limitent la mise en place de réseaux d'entraide et compliquent l'adaptation à des réalités diverses. Ainsi, le logement ne se limite pas à être un espace. Sa configuration influence directement les relations sociales qui les rend possibles et peut faciliter ou entraver autonomie et émancipation. D'autres manières d'habiter. Depuis les années 1970, dans plusieurs villes nord-américaines, des initiatives féministes proposent des approches alternatives en matière de logement, notamment sous forme de coopératives et d'habitats collectifs. Dans les années 1980, on voit apparaître des projets d'habitation collective pour femmes au Canada, incluant des coopératives et des initiatives d'habitat autogérés. Ces milieux de vie cherchent à concilier autonomie individuelle et vie collective en s'appuyant sur la mutualisation des ressources, la coopération et l'attention portée aux besoins quotidiens. Ces initiatives s'inscrivent dans un contexte plus large de développement du logement coopératif, tout en proposant une approche explicitement centrée sur les réalités des femmes. Des initiatives telles que la coopérative Maison des Rebelles à Montréal illustrent cette approche. Conçus pour répondre aux besoins des femmes, ces projets intègrent des espaces communs et des formes d'organisation qui favorisent l'entraide au quotidien. Ces initiatives proposent des alternatives au modèle résidentiel dominant, offrant une autre manière de concevoir le logement, centrée sur les besoins des personnes plutôt que sur la logique du marché. Cette reconfiguration des espaces domestiques s'inscrit dans une réflexion plus large sur le design féministe qui ne se limite pas à la conception de logements pour les femmes, mais vise à créer des environnements inclusifs et équitables. Malgré leur potentiel, ces initiatives d'habitat restent marginales et peu soutenues. Repenser le logement comme enjeu de genre. La crise du logement est généralement vue, dans le débat public, sous l'angle de l'offre et de l'abordabilité. Pourtant, elle révèle des inégalités de genre plus profondes. L'accès au logement, les politiques publiques et les modèles de logement traditionnels contribuent à ces inégalités. En période de crise, ces mécanismes deviennent encore plus évidents, rendant visibles des réalités souvent invisibles. Repenser le logement suppose donc de dépasser une approche strictement économique pour en faire un véritable enjeu d'égalité. Ignorer la dimension de genre dans la crise du logement, c'est invisibiliser celles qui en subissent les effets le plus fortement. C'était « La crise du logement frappe plus durement les femmes, selon les études ». Un texte de Raquel Fernandez, paru le 23 avril 2026 dans La Conversation.
Les enfants qui ont le TDAH racontent-ils plus de mensonges que les autres? Une chronique d'Élise Proulkulen, parue le 1er juin 2026 dans L'Eau Vive. Vous demandez à Pitchounette si elle a fait ses devoirs et elle vous répond oui à tous les coups. Vous recevez un courriel de l'école qui explique que Pitchounet a élaboré une histoire bien sentie sur son devoir terminé, qui a été gâché par le chien qui a renversé un verre d'eau sur le cartable et que le cartable est tombé dans la neige. C'est à se demander d'où vient ce besoin d'investir tant d'efforts à réorganiser les faits. De récents travaux indiquent plutôt que le mensonge chez les enfants qui ont le TDAH est en fait une stratégie de protection. En psychologie, le phénomène de fuite ou combat, flight or fight, a évolué pour inclure le figement, freeze. Ces réactions sont des réponses comportementales à un événement perçu comme un danger ou un stress. Des travaux en neurologie sur les fonctions exécutives et le TDAH considèrent maintenant le mensonge, ou fib en anglais, comme une réponse à un danger perçu exprimé autant par les enfants que les adolescents et les adultes affectés par le TDAH. Selon ces autrices spécialisées en santé et en éducation, M. Hassel et B. Hunter, ce mécanisme offre à l'individu une protection temporaire, comme ne pas décevoir son parent. Ce mécanisme permet aussi la déflexion temporaire des conséquences et une prolongation ou un délai qui donne du temps à l'individu pour réfléchir à la situation. Finalement, les bobards ont aussi pour effet immédiat de préserver l'estime de soi et de mettre en œuvre son sentiment d'auto-efficacité en se protégeant des réactions négatives et rabaissantes des autres. Alors, comment doit-on soutenir un enfant affecté par le TDAH pour qu'il n'ait pas à se servir de ce mécanisme? Des spécialistes proposent ces stratégies. Petit 1, identifier des alliés dans l'entourage de l'enfant qui sachent le soutenir par le biais d'une rétroaction bienveillante. Petit 2, encourager l'enfant à demander de la rétroaction lorsqu'il accomplit sa tâche, afin qu'il puisse s'ajuster au fur et à mesure et développer son sens de l'autodétermination. Petit 3, remplacer les commentaires négatifs ou les jugements tels que « Mais que va dire ton enseignante ?» ou « Comment penses-tu terminer ton travail si tu parles avec ta voisine de classe à tout bout de champ ?» par « Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse par rapport à ce devoir ?» ou « Comment est-ce que je peux t'aider à faire ton travail ?» Petit 4, organiser des espaces-temps pour mieux gérer la tâche et empêcher la personne de se sentir submergée. C'était « Les enfants qui ont le TDAH racontent-ils plus de mensonges que les autres ?» Une chronique d'Élise Proulkulen, parue le 1er juin 2026 dans L'Eau Vive.
Je suis, donc je suis. Un texte de Marissa Grosgué, paru le 7 juin 2026 dans la presse. On le sait, le sport nous est bénéfique selon la science. Mais qu'en dit la philosophie? Ces derniers mois, lorsque ma collègue Véronique Larocque arrive au bureau, elle me semble encore plus de bonne humeur qu'à l'habitude. Il faut dire qu'elle est une personne généralement souriante avec qui il fait bon échanger. Mais depuis qu'elle s'est mise au spinning, lorsqu'elle me raconte ses cours, durant lesquels elle s'évade, se dépasse, se renforce et s'amuse, je constate que ma collègue a trouvé là une façon de bouger qui lui procure à la fois les endorphines, dopamine et autres plaisants neurotransmetteurs que l'activité physique permet, mais qui lui apporte aussi une gratification qui semble dépasser la récompense chimique. La satisfaction se prolonge après son retour à la vie en dehors du studio. C'est en pensant à elle que je me suis demandé si la philosophie s'était intéressée aux bienfaits de l'activité sportive. La science sait depuis longtemps que la santé physique et mentale est améliorée par la pratique du sport. Mais les philosophes ont-ils eux aussi compris dans leur recherche de sens et de vérité à quel point le mouvement de nos corps est bénéfique à l'humain? Selon le philosophe français Xavier Pavy, pour de nombreux penseurs anciens et contemporains, le lien entre le corps et l'esprit est inéluctable. La discipline philosophique, qui passe par l'exercice de la pensée et de la réflexion, se fait adéquatement seulement si on considère l'exercice du corps. C'était le point de vue de Platon, par exemple, lui-même lutteur. Je muscle mon esprit par mon corps, et je muscle mon corps par mon esprit, énonce Xavier Pavy. Ainsi, quand des sportifs disent qu'ils ont réussi un effort par la seule force de leur mental, on comprend que c'est bien le corps qui fait, mais que l'esprit va nous traîner, ajoute-t-il. Et lorsqu'ils disent que la situation était tellement dure qu'ils ont débranché leur cerveau, évidemment que ce n'est pas possible de débrancher son cerveau, mais la force du corps permet de jouer sur l'esprit. Le corps pour mieux penser. Indissociables à bien des égards, le corps et l'esprit ont pourtant été perçus de plus en plus séparément au fil des âges, avec une tendance à privilégier le second au détriment du premier. Le christianisme a prêché le rejet du corps, donne en exemple Xavier Pavy. Puis, la culture occidentale a fait persister l'idée que ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe dans la tête. Dans les dernières décennies, au contraire, un penchant à faire valoir la supériorité du corps a émergé, dit l'expert. Pensons aux universités qui accordent des bourses d'études aux très bons sportifs ou à la glorification du sport professionnel. Ces exemples que donne M. Pavy vont à l'encontre de la quête philosophique, dit-il. De plus, ils rendent la chose possible pour une partie des gens seulement. Pour maintenir le lien avec l'esprit, dans ce que le philosophe appelle l'exercice spirituel, le travail du corps doit mener à une pratique réflexive, ce que tous peuvent atteindre avec de l'effort, précise-t-il. Lorsque je fais de la marche, un exercice très important pour Nietzsche, cela peut activer l'esprit, souligne Xavier Pavy. C'est parce que l'exercice est le moteur de la réflexion qu'il est bénéfique. Se plonger dans les sensations du travail physique confère aussi un aspect philosophique au sport, puisque l'on s'interroge sur ce que celui-ci a apporté au corps comme à l'âme et ce qu'il a fait naître dans l'esprit. On peut ainsi mieux se connaître, s'améliorer. Si je fais un marathon pour me prouver aux autres, dit le philosophe, ou même si je le fais seulement parce que j'aime la pratique de la course, je n'ai pas travaillé mon esprit. Mais si j'écris, je médite ou je dialogue pour revenir sur mon effort physique ensuite, je passe alors à un état réflexif. Pour la plupart des philosophes, c'est bien par la réflexion que l'on atteint le bonheur et que l'on s'épanouit. Le chemin qui passe par le corps est ainsi tout à fait valide, voire nécessaire. Mais qu'en est-il donc de ma collègue, de son bonheur à elle? Je ne sais pas quelle réflexion découle de sa pratique du spinning. Peut-être nage-t-elle tout simplement dans l'euphorie d'avoir trouvé une nouvelle activité plaisante? Peut-être aussi se plonge-t-elle plus assidûment dans un exercice permettant de lier son effort physique à une réflexion? Je ne lui ai pas encore demandé. Qu'il soit philosophique, car il peut l'être ou non, le bonheur qu'elle retire de son sport m'indique qu'il y a tout à gagner à s'y mettre, surtout qu'en plus d'un effort bénéfique au corps et à la santé mentale, il est possible d'y trouver quelque chose de plus grand encore. C'était « Je suis, donc je suis », un texte de Marissa Grosgué, paru le 7 juin 2026 dans La Presse.
Voici les 6 signes qui devraient vous alerter sur un possible excès de cholestérol selon les médecins. Un texte de la rédaction, paru le 12 juin 2026 dans Futura Science. Le cholestérol, essentiel à notre organisme, peut devenir un ennemi silencieux lorsqu'il est en excès. Quels sont les signes qui trahissent des taux trop élevés? Comment prévenir les risques cardiovasculaires associés? Découvrez les 6 symptômes révélateurs d'un cholestérol excessif et les moyens d'agir pour préserver votre santé. Le cholestérol, lipide indispensable à notre corps, joue un rôle crucial dans la synthèse hormonale et la solidité cellulaire. D'un autre côté, lorsque son taux sanguin s'élève anormalement, il peut devenir un facteur de risque majeur pour notre santé cardiovasculaire. Bien que l'hypercholestérolémie soit souvent asymptomatique, certains signes peuvent alerter sur un excès de cholestérol. Dans le présent article, nous explorerons les symptômes révélateurs d'un taux de cholestérol trop élevé et les moyens de le réguler efficacement. Les 6 signaux d'alerte d'un cholestérol élevé. L'excès de cholestérol peut se manifester de diverses manières, parfois subtiles. Voici les 6 principaux symptômes à surveiller. 1. Douleur localisée. Des sensations douloureuses dans la poitrine ou les mollets peuvent indiquer la formation de plaques d'athérome. 2. Vertige. Des étourdissements fréquents peuvent être liés à une mauvaise circulation sanguine due à l'accumulation de cholestérol. 3. Essoufflement. Une difficulté à respirer, même lors d'efforts modérés, peut signaler un problème cardiovasculaire lié au cholestérol. 4. Instabilité à la marche. Des troubles de l'équilibre peuvent résulter d'une circulation sanguine altérée. 5. Xanthome. Ces dépôts jaunâtres sur les paupières sont des signes visibles d'accumulation de cholestérol. 6. Troubles de l'érection. Chez les hommes, des difficultés érectiles peuvent être liées à une mauvaise circulation due à l'excès de cholestérol. Il est primordial de noter que ces symptômes peuvent aussi être associés à d'autres conditions médicales. En cas de doute, une consultation médicale s'impose pour un diagnostic précis et une prise en charge adaptée. Comprendre le cholestérol et ses effets sur l'organisme. Le cholestérol circule dans notre sang sous deux formes principales. Le LDL, cholestérol surnommé « mauvais cholestérol », qui peut s'accumuler dans les artères. Le HDL, cholestérol, ou « bon cholestérol », qui aide à éliminer l'excès de LDL. Un taux élevé de LDL cholestérol favorise la formation de plaques d'athérome, réduisant le diamètre des artères et leur élasticité. Cette athérosclérose peut entraîner de graves complications cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, AVC. Voici un tableau récapitulatif des taux de cholestérol recommandés selon le type de cholestérol. Cholestérol total, moins de 2 g par litre. LDL cholestérol de 1 à 1,29 g par litre. HDL cholestérol, plus de 0,4 g par litre. Facteurs de risque et prévention de l'hypercholestérolémie. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'augmentation du taux de cholestérol. Le surpoids et l'obésité, une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète. Pour prévenir et gérer l'hypercholestérolémie, il est indispensable d'adopter un mode de vie sain. Voici quelques recommandations. 1. Privilégier une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes. 2. Consommer des protéines maigres, volailles, poissons. 3. Opter pour des huiles végétales insaturées, olives, colza. 4. Pratiquer une activité physique régulière. 5. Arrêter le tabac. 6. Limiter la consommation d'alcool. En cas d'hypercholestérolémie avérée, votre médecin pourra prescrire un traitement médicamenteux, généralement à base de statines, pour compléter ses mesures hygiéno-diététiques. Vers une santé cardiovasculaire optimale. La surveillance du cholestérol est primordiale pour préserver notre santé cardiovasculaire. En étant attentifs aux signes évocateurs d'un taux élevé et en adoptant une hygiène de vie adaptée, nous pouvons considérablement réduire les risques associés à l'hypercholestérolémie. N'oublions pas que la prévention reste la meilleure arme contre les maladies cardiovasculaires. Un suivi médical régulier et des bilans sanguins permettront de détecter précocement toute anomalie et d'agir en conséquence pour une vie longue et en bonne santé. C'était « Voici les 6 signes qui devraient vous alerter sur un possible excès de cholestérol selon les médecins ». Un texte de la rédaction, paru le 12 juin 2026 dans Futura Science.
Savoir sur la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie. un texte de Jonathan Sema, paru le 5 juin 2026 dans La Liberté. Dès ce 5 juin, l'Agence du revenu du Canada a commencé à verser le supplément unique prévu dans le cadre de la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Annoncé par le gouvernement fédéral en début d'année, ce supplément unique correspond à une hausse de 50% de la valeur annuelle du crédit pour la taxe sur les produits et services, TPS, en 2025-2026. Les versements trimestriels bonifiés commenceront, eux, à être effectués en juillet. Cette mesure permettra d'offrir une aide immédiate à environ 12 millions de Canadiens, selon des données du gouvernement. Ginette Lavaque, députée fédérale de Saint-Boniface, Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, évoque l'impact de cette initiative. L'abordabilité, c'est un sujet dont on parle beaucoup. J'en entends parler lorsque je rencontre des gens dans la communauté. Alors, notre gouvernement s'est penché immédiatement sur ce qu'on peut faire dans le concret, dans le réel, afin d'améliorer ça et d'appuyer les Canadiens. C'est la raison pour laquelle on a créé ce programme d'allocation canadienne pour l'épicerie, les besoins essentiels, où on va verser dans les comptes des gens des fonds supplémentaires pour aider avec le coût de la vie. Au-delà de 460 000 personnes au Manitoba pourraient être visées par cette aide. Et dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital, on parle d'au-delà de 29 000 personnes qui vont recevoir cette allocation-là, précise Ginette Lavaque. Concrètement, en tenant compte du supplément unique, cela signifie qu'une famille de 4 personnes recevra jusqu'à 1 890 $ cette année et environ 1 400 $ par an pendant les 4 années suivantes. Une personne seule recevra pour sa part jusqu'à 950 $ cette année et environ 700 $ par an pendant les 4 années suivantes. La députée fédérale de Saint-Boniface-Saint-Vital rappelle que cette nouvelle allocation s'accompagne également d'un développement d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire. Oui, on a mis de côté des fonds supplémentaires qui seront versés aux banques alimentaires. On parle également de 500 millions de dollars du fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises canadiennes qui sont en alimentation à accroître leurs capacités. Je pense que la sécurité alimentaire, ça passe par le fait qu'on va mieux servir les Canadiens. On va être mieux placé si on est en mesure de faire notre propre alimentation, d'être producteurs nous-mêmes, ici au Canada. Donc on veut encourager les producteurs, puis les appuyer avec des ressources additionnelles. C'était ce qu'il faut savoir sur la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie. Un texte de Jonathan Sema, paru le 5 juin 2026 dans Les Libertés.